La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Lorsqu'on parle pétrole, on pense maintenant immédiatement à pollution et réchauffement climatique. On pense aussi à énergie fossile de quantité limitée, aux carburants qui permettent au transport de fonctionner sur terre, sur mer, dans les airs. On pense au bitume des routes, à toutes les retombées économiques, au plastique et d'une manière générale, tout ce qui gère nos vies sociales actuelles. Que ferions-nous à notre époque sans cette huile de pierre ? Étymologie de Petra Oleum. Il va pourtant bien falloir s'habituer à d'autres sources d'énergie dans le futur. Mais qu'est-ce que le pétrole exactement? Et depuis combien de temps les êtres humains l'utilisent-ils? Où se trouve-t-il? Et comment est-il extrait des profondeurs de la Terre? J'ai avec moi aujourd'hui Lisette Quétier, ingénieure spécialiste des simulations numériques d'écoulement dans les gisements de pétrole, qui va nous expliquer tout ça. Après un diplôme de l'École nationale supérieure d'hydraulique de Grenoble et quelques difficultés courantes à l'époque pour s'imposer dans le monde du travail en tant que femme, Lisette a préparé une thèse au centre de recherche de la SNEAP, qui est la Société nationale Elf Aquitaine Production. Elle a développé à l'époque un simulateur numérique qui a été utilisé à Lac, en Californie, au Congo. Elle a ensuite plus tard étudié la mécanique des roches, en particulier pour les plateformes pétrolières en Norvège, avant de revenir aux simulations numériques d'écoulement. Tout cela semble bien complexe et ardu pour une béotienne comme moi. Mais Lisette va nous expliquer tout ça. Bonjour Lisette.
Bonjour Sylvie.
Il serait bien de rappeler ce qu'est le pétrole. Personnellement, j'avais oublié qu'il s'agissait au départ de la décomposition d'animaux marins, du genre plancton, qui se déposait au fond des océans il y a entre 20 et 350 millions d'années, à l'époque des dinosaures. Les mouvements internes de la Terre ont ensuite conduit ce résidu de décomposition du vivant à affleurer à certains endroits, ou bien à se déposer dans des gisements souterrains. Lisette, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton métier et de l'importance pour les sociétés humaines ?
Oui, Sylvie. Ma discipline fait partie de ce qu'on appelle les géosciences, donc un peu les sciences de la Terre dans le domaine de l'exploitation des gisements pétroliers. Une fois qu'un gisement a été découvert, donc là où ce sont plutôt les géophysiciens qui travaillent, et une fois qu'on a évalué ce gisement par différentes méthodes, notamment où les géologues interviennent, et que l'on a décidé d'exploiter ce gisement de pétrole, il y a toute une phase où il faut essayer d'évaluer ce que l'on va en produire, notamment parce qu'il faut dimensionner les installations qui vont permettre cette extraction du pétrole et la production via les installations de surface.
Donc il faut avoir une idée du volume du gisement, de son endroit, de sa profondeur, de l'écoulement du pétrole et tout ça, c'est très complexe.
Oui, tout à fait. Donc la profondeur, c'est plutôt déterminé par les méthodes géophysiques. Après, ce qu'on cherche aussi à faire, et donc là c'est là où les géologues interviennent, c'est déterminer les caractéristiques de la roche, savoir si elle est très poreuse, ça va contenir beaucoup de pétrole. Si elle est très perméable, ça nous intéresse parce que les fluides dans le gisement vont s'écouler plus facilement.
Attends, excuse-moi de t'interrompre, mais je découvre quelque chose. Moi, je croyais qu'il y avait le pétrole liquide entre des pierres. Et en fait, il est dans les pierres poreuses.
Absolument. Et l'écoulement du pétrole dans le milieu poreux est régi par des lois physiques, de mécanique des fluides. Donc, notre gisement de pétrole, on le découpe en ce qu'on appelle des mailles ou des blocs. Et à chacun de ces blocs, on attribue les propriétés nécessaires au calcul. Donc là, c'est un travail interdisciplinaire avec les géophysiciens. Il faut qu'on détermine les porosités, la perméabilité, les saturations. Et au début, en fait, c'est la difficulté de notre métier. C'est qu'on a très peu de données, puisqu'on a les données fournies par les forages qui permettent de délimiter l'extension du gisement, qui permettent des forages prospectifs. Et à partir de ces forages, on extrait ce qu'on appelle des carottes. Et de ces carottes, on extrait des échantillons sur lesquels on peut faire ces mesures physiques en laboratoire. Quand on fore les puits de pétrole, on s'arrête à un certain moment, à certaines différentes profondeurs du gisement, pour pouvoir en extraire justement ces cylindres qui sont indispensables pour mieux déterminer les propriétés. Et donc, une fois qu'on a ces propriétés, après, on utilise des méthodes géostatistiques. Il faut mettre ces propriétés dans toutes les mailles, dans tous les blocs de notre modèle numérique. Et donc là, on utilise des méthodes de géostatistiques pour pouvoir déterminer les propriétés. Alors, les mailles, vous allez me dire combien il y en a. Eh bien, quand j'ai commencé ma carrière, il y en avait quelques centaines, parce qu'en fait, on avait des moyens de calcul très, très, très limités. Quand j'ai terminé ma carrière, au milieu des années 2010, on en avait plusieurs millions de ces mailles, parce qu'à ce moment-là, effectivement, les ordinateurs avaient fait énormément de progrès.
Oui, les capacités numériques, les capacités des ordinateurs ont beaucoup évolué.
Voilà, les capacités de calcul ont fait un bond extraordinaire entre les années 80 et les années 2020, les années actuelles.
Et alors le but final en fait de ces simulations, c'est pour aider à la production du pétrole, à l'extraction du pétrole?
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on simule en fait, c'est ce que pour produire ce pétrole, pour le sortir de ces gisements, eh bien, on fait par pompage. Donc, on crée une dépression. Et cette dépression, en fait, eh bien, se propage petit à petit à l'ensemble du gisement. Et donc, nous, ce qu'on calcule, eh bien, c'est sous l'effet de cette dépression, combien est-ce que de pétrole on fait passer d'une maille à l'autre. Alors, en fait, on ne dit pas pétrole, nous, on dit huile, hein, dans notre jargon. On n'a pas que l'huile dont il faut calculer le dépassement, mais on a aussi l'eau, parce que souvent, en fait, la dépression ne suffit pas pour pouvoir extraire ce pétrole et il faut injecter de l'eau, calculer en fait le bilan, ce qu'on appelle le bilan matière entre les différentes mailles, aussi pour l'eau. Et on a un troisième fluide associé qui est le gaz, parce que souvent l'huile, notamment les huiles légères, par dépression, elles produisent du gaz.
Justement, en fait, le pétrole lui-même, l'huile elle-même, elle peut avoir des viscosités très différentes. On parle de d'huile lourde, d'huile légère. Tu peux nous dire toutes les possibilités?
Oui, absolument. En fait, tout à l'heure, on a parlé des mesures physiques de la roche qui permet de donner des propriétés à nos mailles, mais on prend aussi des échantillons de fluides pour déterminer les propriétés des fluides, les propriétés physiques comme la viscosité, et aussi toute une gamme de mesures qui permettent de connaître plus précisément l'huile. Oui, donc l'huile, effectivement, a peut-être ce qu'on appelle les brutes lourdes. Des fois, ce n'est même pas du tout mobile in situ. Donc, on est obligé d'utiliser d'autres méthodes pour les faire bouger. Et des fois, elles sont très, très légères, à la limite. Enfin, il y a tout un continuum entre l'huile très lourde, très visqueuse, qui ne peut pas s'écouler, jusqu'à des huiles très légères. Et puis ensuite, les gaz. Il n'y a pas de rupture. C'est tout un continuum. Et en fonction des propriétés des huiles, pour les huiles intermédiaires, on utilise ce qu'on appelle les modèles black oil. Black oil, ça voulait dire huile noire. C'est des huiles qui s'écoulent, mais qui sont pas hyper légères. Après, pour les huiles très légères, plus complexes, là, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des modèles compositionnels. C'est-à-dire qu'on n'a plus seulement trois composants qui sont l'eau, l'huile et le gaz. Ça fait plus d'équations à résoudre.
Et alors, en t'entendant, on a l'impression de travaux très complexes et d'être assez à l'écart de la société, même si on sait que le pétrole est important pour la société. Tu étais toujours derrière un ordinateur. Est-ce qu'il y avait quand même des relations humaines avec ça?
Oui, heureusement, sinon je serais morte. Non. En fait, bon, effectivement, il y a des périodes où on est derrière un ordinateur, notamment dans les périodes de développement d'un simulateur, parce que là, c'est compliqué. Hein, donc, il y a des allers-retours, des essais, des mises au point. Mais ensuite, quand on utilise des simulateurs, en fait, on était plusieurs, il y a toute une équipe, il y avait les gens qui faisaient des études pour évaluer les gisements. et qui n'avaient pas forcément toute l'expertise pour utiliser ces simulateurs. Donc il fallait les aider. Et on avait un service d'assistance aux utilisateurs de modèles, qu'on appelait le SAMU d'ailleurs. Et puis il fallait aussi faire ce que j'ai beaucoup aimé, faire de la formation, parce que c'est quand même des outils effectivement très complexes à utiliser. Et ça, j'adorais cette partie de mon métier. Après, on avait aussi des relations avec les collègues d'autres compagnies au cours de symposiums ou au cours d'échanges ou au cours de projets de recherche communs qui nous permettaient aussi de sortir de notre bureau.
Eh bien, merci Lisette de nous avoir entraînés dans les profondeurs et la complexité de ce qu'est vraiment le travail des gens, des ingénieurs qui participent à la production pétrolière. Je pense que même si on essaye maintenant, il faut avoir une modification des énergies pour l'avenir. C'est quand même encore, il y a encore beaucoup de travail. Enfin, on ne va pas se passer du pétrole du jour au lendemain. Et donc, merci beaucoup, parce que quand on parle du pétrole, on pense aux problèmes économiques, aux grandes puissances, etc. Et c'est important de savoir un peu comment les choses se passent d'une manière pratique. Donc, merci bien d'avoir accepté de participer à cette émission. Et bonne continuation.
Oui, c'était un grand plaisir. Une dernière chose que je voudrais ajouter, je veux dire... Quand j'étais jeune, avant de commencer mes études d'ingénieur, en fait, je ne savais pas trop que faire comme études. J'étais plutôt attirée par les études scientifiques. Et puis, j'hésitais entre la médecine, la recherche, l'enseignement. Et finalement, ce métier d'ingénieur m'a permis de faire de la recherche, faire de l'enseignement. Et si je n'ai pas fait vraiment de la médecine, le fait qu'on appelait ce service d'aide aux utilisateurs, le SAMU, c'est un petit clin d'œil à ma vocation de médecin, parce qu'effectivement, il y a le côté humain où on aide les gens, il y a un côté aussi diagnostique. Quand ils arrivaient dans le bureau et qu'ils me disaient « Lisette, rien ne marche, j'ai rien changé à mon modèle, mais hier il marchait, aujourd'hui il ne marche pas », il y a toute cette phase de diagnostic pour savoir comprendre ce qui ne va pas.
Super. Merci beaucoup, Lisette. Au revoir.